l'ordre de la découverte de ce que les gens sont, de ce qu'ils étaient, de ce qu'ils sont, de leur pays, de leurs institutions. Un groupe de femmes à des biens que je rencontre, ils ont dit on a fait quelque chose de bien important hier. Alors, j'ai dit quoi? Ils ont dit on est allé au conseil municipal, on n'avait jamais mis les pieds là. Elle dit on était une dizaine de femmes. Elle dit moi, j'avais jamais pensé qu'il y avait un conseil municipal à des biens. Puis jamais pensé que s'il y en avait un, que je pouvais aller là. Elle dit, savez-vous, que ce conseil municipal, elle dit, il se passe des affaires importantes. Elle dit, oui, puis toujours, des affaires bien importantes qui se passent là. Elle dit, c'est une affaire à suivre. Elle dit, je comprends. Je dis, les citoyennes des biens, s'il y a une affaire à suivre, c'est bien ce qui se passe dans le conseil municipal. Alors, je ne sais pas si je suis encore, mais en tout cas, c'était le genre de réflexion que les gens faisaient. Ou bien au personnel des évêques, ou bien moi quand j'allais dans la région. C'est pas. Il n'y a pas eu d'impact politique. Il y a eu découverte, appropriation un peu, du matériel de tous autres qui constituent la région. Une valorisation de leur fierté aussi, une valorisation de... Ils sont capables de faire quelque chose. Je remarque que les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean, il n'y a pas besoin de Québec pour savoir qu'ils sont capables de faire quelque chose, parce qu'ils sont assez fiers.
Mais c'est aussi un petit peu... dommage pour le reste de la province. De la façon dont vous traitez les gens de Saguenay-Lac-Saint-Jean dans votre rapport, vous leur donnez tellement de qualité,
oui.
Puis vous venez de quitter la Gaspésie.
Oui.
C'est effrayant pour les Gaspésiens.
Non, peut-être que ça a été réciproque, peut-être que. Il faut dire que moi, avant d'aller au BAQ, je visitais la province rang par rang, et c'était un de mes coins, ça. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean, chaque année, quand on sortait à Grande-Tante, là, je me faisais attribuer ce coin-là pour trouver les chanteurs, les danseurs. C'était un coin que je connaissais déjà. Et puis que j'aimais beaucoup, ça puis la Beauce. La Beauce aussi, la Beauce, j'aimais ça aussi. La Gaspésie, je ne connaissais pas. Mais effectivement, si on peut parler de qualité des gens du Saguenay, d'abord, c'est des gens qui s'expriment merveilleusement. Leur français est beaucoup plus pur que celui des Montréalais, par exemple, ou celui des Québécois. Ils s'expriment pas seulement dans un français qui est beaucoup plus pur que dans d'autres régions, mais aussi... Ils ont de la facilité à s'exprimer. Je rencontre quelqu'un au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui parle. C'est pas comme quand tu tombes dans Dorchester ou dans Mécantic où les gens s'assient puis tu là, il faut que tu te perces une heure de temps dans la chaise baissante avant que le gars te dise oui.
De TVEC sur le Québec au niveau des médias. Ça a apporté quoi? Je veux dire plus loin que ça. Là. Pensez-vous que ce qui existe actuellement, c'est un peu en liaison avec, je pense, les TVC du Lac-Saint-Jean?
La TVC du Lac-Saint-Jean, ça marche pas, ça.
Il y en a cinq qui marchent actuellement.
Ça marche pas. Ça.
Ouais, c'est ça, là. Ça boite.
Non, ça marche pas partout. Tant qu'à moi, je veux dire, ça marche pas fort. Quelle a été l'influence de TVEC au niveau du développement des médias? C'est une question difficile, ça. Je pense que, de toute manière, mon premier réflexe est le bon. Par rapport à une question comme ça, je pense qu'il faut que TVEC soit modeste par rapport à ça. Parce que, finalement, quand je regarde le développement de la télévision communautaire, par exemple, un peu tout partout, c'est bien plus une influence directe de Challenge for Change ou Guerilla Television ou ce genre de choses-là qui ont pu faire que des jeunes sont lancés dans ces secteurs-là, pas mal plus probablement que TVEC. TVEC a eu une influence cependant, y compris dans la télévision communautaire. Moi, je ne sais pas si ça serait bien fort, mais il y en a certainement une, ne serait-ce que, par exemple, que Normandin... Girardville et tout ça, bon, les gens qui s'il y en a qui n'est pas encore aujourd'hui, sont des gens qui ont été directement influencés par l'expérience de Québec ou ont vécu à un titre ou à un autre l'expérience de Québec. Du temps que Tévec existait, Tévec, à part le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis le bureau des suministes qui soutenait l'expérience, n'a pas eu, au cours de son déroulement, beaucoup d'influence. C'est par le biais des étrangers qui sont venus visiter Tévec que Tévec a eu le plus d'influence. On peut toujours sortir le vieil adage, nul est prophète en son pays, où on peut parler encore du même schéma qu'on a parlé tout à l'heure pour le moulin à papier de Perron. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des étrangers qui sont venus voir Tévec. Bon, par exemple, des Français, Schwartz, qui a joué trois mois. C'était à une époque où lui écrivait un livre sur l'éducation des adultes. Et on est entré en correspondance avec lui avec nous. Tous trois mois, il était chez nous avec des gangs différentes. Et puis, il a commencé à y avoir une certaine littérature dans les revues de pédagogie, des choses comme ça, qui traitaient de cette expérience-là. Et finalement, beaucoup d'étrangers sont venus à Tévec, y compris des gens de derrière les rideaux de fer, y compris des gens aussi loin de nous que le Pakistan, les Indes. Beaucoup de gens de l'Amérique du Sud, sans arrêt, il y avait des gens qui défilaient voir ce programme. Puis j'étais classé qui venait au bureau, passait un jour ou deux. Comme ça, si on allait au lac, il faisait le tour un peu, il regardait quelques émissions, il redescendait, on se revoyait, on lunchait, puis il partait. Je veux dire, c'était à peu près ça tout le temps, le pattern, mais toutes les semaines, il y en avait. Ces gens-là ont écrit, soit chez eux, soit ailleurs, et là, les Québécois ont commencé à sentir que peut-être que cette expérience-là était une bonne expérience. Et si tu veux un détail là-dessus, je vais penser une fois que Schwartz recevait un doctorat honorifique, en même temps que M. Bertrand, qui était à l'époque premier ministre, mais qui avait été le ministre de l'Éducation, qui avait signé un papier pour Québec. Puis qui a juste mouillé parce qu'il était venu lancer le projet dans la région, dans une assemblée qu'on avait organisée pour le commissaire d'école allemand. Au mois d'août 67, je pense. Ouais. Alors, lui aussi recevait donc un doctorat honorifique à l'Université de Montréal. Alors, Schwartz fait une espèce de discours, là, comme ça se fait dans ces cérémonies-là. Et dans son discours, je sais pas quoi, je n'étais pas là, c'est lui qui m'a dit ça par la suite. Parle de l'expérience d'évêque. Dans son discours de réception de son doctorat. Et là, ce qu'il se rassoit, comme sont les deux titulaires, ils sont assis côte à côte, M. Bertrand, il l'accroche et il dit, vous savez, M. Schwartz, c'est moi qui ai parti de cette expérience-là d'évêque. C'était peut-être la première fois qu'il réalisait qu'il avait trempé dans une expérience en l'autorisant. Dans une expérience qui avait l'air d'être importante. Là. C'était la première fois qu'il le réalisait, là, lui. Et c'est à peu près ça tout le temps. À un moment donné, t'as même des gars qui ont écrit des livres sur Tévec. Il y a des gars qui sont jamais venus à Tévec. Et pour moi, l'exemple le plus classique de ça, c'est un gars qui a nommé Lalaise, que je connais de loin parce que je connais du monde qui le connaisse. Un Français qui est maître de conférence. Et il a reçu une commandite un jour du Bureau international d'éducation de Genève, qui est une agence de l'UNESCO, pour écrire un livre qui s'appelle Le Cas Tévec. Et il a lu tous les rapports de recherche, parce que l'équipe de recherche produisait beaucoup de rapports. Il a lu tout ça. Et à partir de ça, il a écrit un livre. C'est pas pire, tu sais. Je vous dis, pour un gars qui n'a pas mis les pieds au Saguenay-Lac-Saint-Jean, je ne peux pas dire que c'est un mauvais livre. Le gars, il a bien travaillé. Mais ça fait drôle quand même. Qu'un gars se sente obligé, soit sous une commande, en tout cas qu'il passe un an ou deux, à écrire une espèce de brochure assez forte sur une expérience qu'il n'a même pas pu venir voir lui-même. C'est pour te dire. Alors, en feedback, cette littérature-là. Un autre secteur aussi, c'est des étudiants. Des étudiants, soit en sciences de l'éducation, soit en communication. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'étudiants en communication comme tels, mais il y en avait beaucoup dans les facultés des sciences d'éducation. Beaucoup de ces étudiants-là sont venus à TVEC ou ont fait des thèses sur TVEC ou ont été engagés par TVEC au niveau de la recherche pour faire certains travaux de compilation durant l'été ou des choses comme ça, puis sont pris un peu au jeu-là et ont poursuivi des... Alors, il y a eu 4 étudiants qui ont fait des thèses ou des projets de maîtrise ou de toutes sortes d'affaires. Et ça aussi, ça a été très important pour l'influence que TVEC a eue. TVEC, aujourd'hui, est devenu une affaire un peu mythique, au fond. C'est mais c'est pas
on peut se retrouver aussi dans le multimédia jusqu'à un certain point parce que par un arrêté en conseil est mis multimédia en 71 et les objectifs de multimédia à cette époque là c'était d'élaborer au niveau du Québec un plan multimédia, comme TVEC avait essayé de le prôner, de l'éducation et du développement. Alors, c'était quoi, dans le fond, qui justifiait l'élaboration d'un projet de TVEC? Il y a une série de questions que je vais vous poser sur TVEC, sur multimédia, c'est-à-dire. D'une part, des questions indiscrètes, que je considère indiscrètes en tout cas, les objectifs de multimédia à cette époque-là, le budget, les circonstances dans lesquelles multimédia intervient, la différence qui existe entre multimédia et CAPAC, l'avenir de multimédia selon vous, et jusqu'à un certain point, m'éclairer sur le fait qu'on considère souvent multimédia comme un projet crosseur.
Bon. Un projet quoi? Crosseur? Ça veut dire quoi ça?
On va s'expliquer là-dessus, là, mais un projet qui intervient et qui laisse tomber les gens en cours de route.
Ouais.
Alors, je prends ma première question, c'est pour vous donner un peu l'ensemble des questions. Je prends ma première question et s'il y en a auxquelles vous considérez que ça vaut pas la peine, là, on les saute. Ah, c'est les objectifs de multimédia, en fait, au départ.
Ben, c'était des objectifs qui étaient... Déjà, situer une affaire, là, parce que par rapport aux questions que... un certain nombre de questions que tu as posées, peut-être que l'histoire ou la genèse ou le passage entre TVEC et multimédia peut t'expliquer certaines choses.
Parce qu'il y a des choses que j'ai lues aussi.
Vois-tu, le TVEC a fini en principe en juin 69, mais on a obtenu qu'il y ait un autre bout qui soit fait de septembre 69 à décembre 69. En décembre 69, là, l'idée de M. Beauchemin, par exemple, qui était un des sous-ministres responsables du SMTE, qui était un peu chargé pour Yves Martin du développement des médias dans le ministère, lui, il aurait voulu que TVEC s'étende à la grandeur de la province. M. Cardinal, le ministre du temps, n'a pas voulu ça. Il ne voulait pas ça. Parce que pour lui, TVEC était une expérience qui était entachée de toutes sortes d'affaires. Et ça avait été une expérience que lui, politiquement, n'aimait pas. Par exemple, on a fait des émissions sur la politique, il y avait des anciens députés qui étaient venus à l'écran pour dire que le métier de député, franchement, ça valait pas de la marque. Puis les députés ne faisaient pas grand-chose. Chose comme ça. Alors, ça ne l'aidait pas dans sa campagne à la chefferie. Bon. Ensuite, il trouvait que le ministère n'avait pas d'affaire à se lancer dans ce genre de projet-là, qu'il y avait un réseau institutionnel, puis que si on avait des changements à faire en éducation des adultes, de demander au réseau, puis le réseau les ferait. Ce courant-là est encore très présent dans l'esprit de... Il était très présent dans l'esprit de M. Cloutier également. Cardinal ne veut pas que TVEC s'étende à la grandeur de la province. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Il fait un comité. Un comité d'implantation qui a commencé ses travaux en janvier 70 et dont le ministre m'avait exclu. Puis là, ils ont staffé ça en essayant de de pas trop faire mal à ben du monde, là. Des gens du RGME, de Radio-Québec, et puis Réginald Grégoire, qui avait été mon coordonnateur pédagogique à Québec, était le secrétaire de ce comité-là, était la cheville de ce comité-là. Alors eux ont sorti un rapport en juillet 70. Ce rapport-là, les gens l'ont lu très rapidement, puis c'était pas un très bon rapport. Genre, comme il n'y avait pas là-dedans un projet clair. C'était un projet, c'était un rapport qui faisait beaucoup de considérations sur ce que devait être la pédagogie des adultes, qu'il fallait qu'il y ait le genre de structure qu'il fallait pour qu'un projet soit vraiment bon pour les adultes qu'il fréquenterait, etc. Mais le projet concret, précis, il y en avait des bouts, il en manquait des bouts. Quand tu lisais ça, puis quand tu lisais ça avec ta grille de dire, bon, on fait un projet maintenant qu'on a un rapport, tu cherchais le projet dans le rapport, tu ne le trouvais pas, tout à fait. Tu voyais toutes sortes d'affaires, des tableaux, y compris des budgets, des progressions de budget, toutes sortes d'affaires, mais le projet précis, il n'avait pas l'air d'être là. Dans ce temps-là, le ministère, il met là-dessus « document de travail ». Alors, c'était un document de travail. C'est le document de travail qu'on l'envoie à planification pour études. Alors, les gens de la planification l'ont étudié. Et ils ont repris les principales données qu'il y avait dans ce rapport-là. Ils ont confectionné une mémoire au conseil des ministres avec ça. Ils ont fait ça au conseil des ministres en décembre 70. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de délais. Parce que le rapport, je pense, est sorti, c'est fin juillet ou début du mois d'août, quelque chose comme ça. Et en décembre 70, il y a un mémoire qui était approuvé au conseil des ministres qui reprenait, il ne disait pas que le projet, il n'avait pas dans le rapport de projet, il reprenait un certain nombre d'éléments de projet qu'il y avait là, puis les budgets qui avaient l'air d'aller avec ça, puis les objectifs qui étaient là-dedans, puis le conseil des ministres a approuvé ça. Et dans ce mémoire-là, on disait, bon, ben plutôt, on va former une commission administrative, puis on va la créer par arrêter en conseil. Alors, dans le temps de M. Saint-Pierre. Alors, le M. Saint-Pierre, lui, espérait beaucoup de ce type de démarche-là. Parce que pour lui, j'ai cru comprendre, j'en ai jamais beaucoup parlé avec lui, mais j'ai cru comprendre que lui, il voyait assez péjorativement le type d'éducation qu'il y avait pour les adultes dans la province à cette époque-là. Il aurait voulu faire un grand spread avec ça, puis il aurait voulu... Sinon, sortir ça des campus, du moins, reniper ça. Puis les médias, ça, façon de reniper quelque chose, bon. Alors lui, il a poussé sur le conseil des ministres, puis le conseil des ministres a accepté ce mémoire-là. Alors, au ministère, ils se sont mis à travailler sur un projet d'arrêté en conseil pour créer la commission administrative. Là, il y a eu 17 ou 18 versions. Parce que c'est un mandat, quand tu dis je vais faire une commission administrative pour le développement des ressources humaines, tout le monde a déjà ce mandat-là dans le ministère, comme l'éducation. L'éducation des adultes, là, le collégial, là, la digeste, là, tout le monde, là. Tout le monde est là pour faire du développement. Comment ça se fait qu'on est en train de faire une commission pour le développement des ressources humaines? Personne ne comprenait. Alors, ça a été assez dur, ça. Et puis, l'éducation des adultes voulait revendiquer ça, puis le RGME, le SMTE à l'époque, voulait revendiquer ça aussi. Bref, des batailles des élections générales à l'intérieur. Puis, par malheur, en plus, le rapport, qui était un document de travail, sort. Dans le public, l'ICA fait un colloque avec des copies qu'ils ont obtenues. Ils font un colloque là-dessus en février. Et puis là, je suis allé, moi, ce colloque-là. Il n'y a pas eu rien de particulièrement... ni brillant, ni fort de dit là, mais je veux dire, le document s'est trouvé sur la place publique, c'est devenu un peu mythique. Ah, comme il n'y avait pas un projet clair, n'importe qui lisait ce rapport-là, il pouvait y voir ce qu'il voulait. D'accord? L'ICA, il voyait une affaire, le ministère en voyait un autre, la direction générale en voyait un autre, les groupes populaires en voyaient un autre. Alors tout le monde disait, fantastique cette affaire-là. Enfin, le gouvernement va s'occuper de l'éducation populaire. C'est un groupe populaire, ça, que tu disais. L'ICA disait, enfin, le ministère va avoir quelque chose d'articulé sur autre chose, la formation professionnelle bête, là, reliée à l'économique. Et puis, etc. Chacun pouvait interpréter ce rapport-là à sa façon. Alors, le rapport, lui aussi, est devenu mythique à ce moment-là. Quand l'arrêté en conseil est sorti, l'arrêté en conseil, lui qui, en bonne cohérence, en bonne logique, découlait du mémoire qui avait été approuvé, laissait encore tout ouvert. Le seul problème, c'est qu'il devait y avoir quatre représentants de la population là-dessus, puis personne n'avait prévu que par quel mécanisme ces quatre représentants de la population seraient nommés sur cet arrêté en conseil. Alors la veille que l'arrêté, avant que l'arrêté soit présenté, la veille ou l'avant-veille, le ministre a dit comment est-ce qu'on va faire pour élire les quatre représentants de la population qui sont marqués là. On ne sait pas, il n'y a pas pensé. Fait qu'ils ont dit, on va demander ça à l'ICA. Fait qu'ils ont demandé, ils ont dit, l'ICA va s'occuper de... Justement, ils ont oublié d'en parler à l'ICA. Alors, l'ICA était mécontent. Ils ont dit, comment Chris, on attrape un mandat, puis on ne sait même pas, puis personne ne nous a demandé si on voulait de ce mandat-là. Alors, finalement, le ministre Saint-Pierre a réglé ça en allongeant un peu la subvention à l'ICA. Il est passé de 35 000 à 75 000, puis l'ICA a dit, c'est correct, on va essayer de faire quelque chose, mais on vous avertit, on va tirer notre épingle du jeu là-dedans, qu'on va au pouvoir, puis on a de bonnes relations avec les groupes populaires, pas manquer, bon, etc. Et finalement, ils ont tenu des assemblées populaires, au mois de mai, qui ont été très houleuses. Les gens disaient que c'est ça. Les gens disaient, comment ça se fait que le gouvernement décide de mettre comme ça de l'argent à l'éducation populaire? Ça serait-il qu'ils voudraient nous récupérer? Etc., etc. Comment ça se fait s'ils ne veulent pas nous récupérer, qu'on n'a pas plus de monde que ça, ce comité-là? Quatre représentants sur 19. Bon. Puis à chaque fois qu'il y avait une assemblée populaire qui disait à quelqu'un qui pourrait être le représentant, la personne se désistait, ou bien que la claquait porte avec fracas, etc., etc. Alors finalement, au mois de juin, la commission a pu se réunir. Les lycéens ont fourni une liste de gens. Parce que finalement, c'est l'attitude qui. C'est la solution qu'ils avaient retenue. Ils ont envoyé une liste au ministre. Puis le ministre a pigé dans cette liste-là quatre personnes. Ça a pris du temps. Les premières n'ont pas voulu, finalement. Toujours dans la même liste, ils n'ont pas en parlé avec d'autres, jusqu'à ce qu'il y en ait quatre qui, finalement, finissent d'accepter de venir à la commission. La commission s'est réunie en juin 71. Puis ils ont pris un verre. Le ministre est venu voir. Il y a une conférence de presse, je pense. On dit à la conférence de presse, ben là, on ne sait pas ce qu'on va faire avec ça, on a un arrêté, il faut qu'on discute, et puis on s'en va en vacances au mois de septembre, on va revenir, puis on travaillera là-dessus. Noro, qui était le coordonnateur à cette époque-là, qui avait été nommé au mois de mai, je pense, a dit, moi, je vais avoir une petite équipe cet été, là. On commence à travailler là-dessus, puis on va essayer de sortir un texte avant la fin de l'année. Et la commission a nommé son exécutif. Là, il a commencé à y avoir des tiraillements entre le coordonnateur, l'exécutif et la commission. Et à la commission, la commission avait été staffée, finalement, par le ministère, par le ministre. Et,
c'était une patente que le gouvernement voulait contrôler tout.
C'est-à-dire non. Non. Non, parce que... si la commission s'était rapidement mis d'accord et avait dit on va faire quelque chose avec ça, il y avait juste à agir les pouvoirs qu'il y avait dans l'arrêté. L'arrêté était chaud. Puis avec un arrêté qui est chaud, tu peux toujours agir les pouvoirs qui sont dedans. Et si tu agis les pouvoirs qui sont dedans, ça te donne une certaine autonomie. C'est marqué que tu fais des protocoles avec le Conseil du Trésor là-dessus. Ben, si tu t'assois puis tu fais un protocole, puis tu négocies le protocole avec le Conseil du Trésor, puis le protocole est signé de part et d'autre, tu viens d'obtenir des fonds pour longtemps. Tu fais la même chose que les services des achats. Peut-être que toi, quand tu lis l'arrêté, moi je suis au gouvernement, je sais ce que c'est, faire des protocoles avec le Trésor et le service des achats. Puis je sais que si tu fais un protocole avec le service des achats et le Trésor, tu peux aller loin en maudit. Bon. Mais si tu ne fais pas, par exemple, mais tout ça origine du fait, et ça c'est un jugement que je porte sur les gens du comité d'implantation, qui avaient été aussi tiraillés par les diverses tendances qu'il y avait autour de la table et qui finalement n'ont pas sorti un projet clair. Tout le monde était pris avec un projet qui n'était pas clair. Et quand l'équipe opérationnelle de Noro, dont j'étais, on a commencé à travailler sérieusement sur ces papiers-là pour essayer de sortir un texte. Un texte d'ailleurs qu'on a sorti de peur parce que l'exécutif n'était pas d'accord. Même si c'était au langage technocratique qui ne voulait plus rien dire, puis tout ça, le texte qu'on a sorti en novembre 71, du projet au programme, ce texte-là était encore très flou, très vague. Alors, finalement, Noro s'est complètement découragé, puis il est parti en décembre 71. Moi, je m'en allais en Afrique. Il me téléphone, il dit « As-tu signé ton contrat ?» J'ai dit « Non, l'UNESCO l'a envoyé à la délégation du Québec. » J'ai hâte d'aller chercher. Je suis supposé l'envoyer la semaine prochaine. Mais il ne signe pas. Il dit, Noro vient de démissionner. Il va falloir que tu restes titre pour éduquer personne qui peut prendre ça. On dit, il dit, puis peut-être toi, tu pourrais prendre ça. Il dit, on va avoir des rencontres chez le ministre lentement et puis jour de l'an. Tu vas venir avec moi, puis on va discuter un peu. Puis il dit, si le ministre est d'accord, il dit, il faudrait que tu prennes ça. Franchement, je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, je vais voir le ministre avec lui, puis tout ça. Puis il m'a dit, y a-t-il quelque chose que tu veux que je fasse pour toi? J'ai dit, d'affaires. J'ai dit, j'ai lié le procès-verbal de la commission. J'ai dit, la délégation du ministère se chicane tout le temps. J'ai dit, moi, j'en dirais pas que les représentants du ministère se chicanent entre la commission administrative. Il dit, correct, je vais réunir, puis il dit, je vais leur dire que tu as trouvé d'autres dates pour se chicaner. J'ai dit, c'est ça. Alors, il les a réunis, puis il leur a dit d'arrêter de se chicaner. C'est la deuxième affaire, j'ai dit, on va faire quelque chose. Il dit, oui, il faut que tu fasses quelque chose. Il dit, là, il dit depuis décembre 69, il dit, c'est rien passé. Il dit, il y a une des comités, des discussions, des... tu fais quelque chose. J'ai dit quoi? Bon, il dit, je ne sais pas, arrange-toi. J'ai dit, on va se taffer. Il dit, c'est ça. Alors, moi, j'ai réuni la commission. J'ai dit, il y a une consultation là, qui est prévue, qu'il faut faire. Alors, j'en vais faire. Mais j'ai dit, je ne ferai pas une consultation avant que vous approuviez un texte. Puis j'ai dit, on ne fera pas un long texte, une page et quart, à laquelle vous allez dire ce que vous autres, vous dites que c'est, ce que c'est, qui est ce projet-là. Alors, on s'est réunis. Puis péniblement, fin de janvier, on avait un texte d'une page et quart. Puis là, je l'ai dit en même temps, il ne sait pas tout ça. J'ai dit, vous allez former un comité. Puis j'ai dit, vous allez écrire ce que c'est que ce projet-là. Parce que les discussions, toutes les discussions presque, depuis la fin de... qu'est-ce que ce projet-là devait être ou serait? J'ai dit, attention, vous avez le pouvoir de faire ça et vous allez le faire, ça. Puis j'ai dit, moi, j'ai dit, je taffe, là. Puis j'ai dit, le monde qui va rentrer, il faut que je leur dise ce qu'ils vont faire. Puis pour que je leur puisse leur dire qu'est-ce qu'ils ont fait, vous autres, vous allez dire ce que c'est que c'est, qu'est-ce programme-là.
Mais c'était sa tête en maudit.
Hein?
C'était sa tête en maudit, cette affaire-là.
Comment sa tête?
C'était rentré sa tête. C'était pas rentré sur les pieds. C'était rentré à l'envers, un projet de même.
Ben, je sais pas
de
trop.
Que... un jugement de valeur de
non,
même,
non, mais je sais pas trop qu'est-ce que tu veux dire.
Je veux dire, je comprends votre attitude. Je comprends votre attitude d'essayer de débloquer ces affaires-là, sauf que c'était vraiment pas clair au niveau des objectifs ce qui allait se passer là-dedans.
Non, parce que les objectifs qui traînaient à partir du rapport du comité d'implantation, c'était de donner une formation mieux reliée, une formation plus satisfaisante, plus adéquate aux adultes, faire avancer la technologie. Arriver à ce que les adultes aient une formation mieux reliée à leurs besoins. Pas des objectifs, ça.
Oui, mais c'était une façon de se protéger aussi.
Non, mais pour eux autres, quand dans le comité d'évaluation, ils avaient donné ces objectifs-là, très généraux, c'est comme, faites-le bien, tu sais. ça te dit pas que c'est qu'il faut que tu fasses, ça te donne pas des objectifs opérationnels bien gros. Il n'y avait jamais été écrit des objectifs opérationnels. Nous autres, on avait, dans l'équipe opérationnelle, fait quelques chemins là-dedans, mais on n'était pas décisionnels là-dedans, rien. Alors finalement, c'est comme ça que la commission a créé un sous-comité dont j'étais.
C'était quoi le budget de tout ça à l'époque?
Oh, c'était bien théorique. La première année, je pense que le budget était pas beaucoup d'importance. Le budget avait autour de 2 millions, je pense. Mais on n'a pas dépensé 600 000, je veux dire. T'as pas regardé rien fait, tu savais pas qu'est-ce que t'avais à faire. La deuxième année, Et d'ailleurs, le ministre des Communications, commission parlementaire de 72, quand ils ont dit comment ça fait que tu peux aimer des millions comme ça, vous, monsieur? Ah ben, c'est à cause des multimédia. Il dit, j'avais prévu de l'argent pour eux autres. Puis il dit, Radio-Québec avait 1 million pour eux autres. Puis du monde avait une coupe. Puis il dit, on attend. Alors, la plupart des argents des multimédia. Ah oui, on était périmés d'année en année. Ce n'est que maintenant qu'on commence un peu à dépenser les argents. J'ai réduit, moi, les budgets considérablement parce qu'on n'a pas besoin de tout argent-là.
Mais dans quelles circonstances vous intervenez maintenant dans le multimédia? C'est quoi maintenant le multimédia? Je sais que vous avez des animateurs, puis que l'objectif, c'est d'être québécois.
Multimédia, là, c'est une affaire à deux volets. Il y a, dans un premier volet, tu as des groupes de base qui font des projets éducatifs de leur choix. C'est-à-dire des gens qui se réunissent à 10-12. Et puis qui... c'est pas facile à faire, ça. Et qui finissent par s'entendre sur quelque chose qu'ils voudraient apprendre ensemble. Et puis, je te donnerai un texte qui dit ce qu'est un multimédia à mes yeux, là, à ce moment-ci, tantôt. Alors, dans ce premier volet, tu as donc des groupes de base. Ces groupes de base-là font des projets éducatifs de leur choix. Évidemment, ils identifient un besoin qu'ils auraient d'apprendre quelque chose. Évidemment, à partir de ce qu'ils sont, à partir de ce qu'ils vivent, à partir des problèmes qu'ils peuvent avoir. Et la première découverte qu'ils font, c'est que quand ils ont identifié un projet qu'ils voudraient apprendre ensemble, c'est qu'on leur donne rien pour le faire. Il faut qu'ils s'arrangent tout seuls. On leur donne pas d'argent, on leur donne pas de locaux, on leur donne pas de prof, on leur donne rien. On leur démerde de haut. Tout ce qu'on leur donne, c'est un animateur qui essaye de faire le pont, de réunir le monde, puis que le groupe commence à faire quelque chose.
PLQ a été produite dans Québec, puis pourquoi a-t-on abandonné le projet du PLQ? Je sais qu'à cette époque-là, vous arriviez dans la charnière entre les deux, si je ne me trompe pas.
C'est-à-dire, je suis arrivé au PLQ en 64. Le PLQ avait commencé en 63, je suis arrivé sur PLQ en 64. Et puis, j'étais là jusqu'à... septembre 65, je pense. Ouais, c'est ça. Jusqu'en septembre 65. Il n'y a eu rien d'interrompu au BAQ. Ce qui est arrivé, c'est ceci. Il y avait un conseil du plan qui était dirigé par Guy Coulon, dans lequel on trouvait également François Poulin, les gens qui s'occupaient du biophysique, qui avait également Jean-Claude Lebel. Lebel, lui, était chargé de... au niveau cadre, là, au niveau du conseil du plan, qui lui traitait directement avec le conseil d'administration qui était constitué de notables de l'endroit, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie, tout ça, les îles de la Madeleine également. Alors, Lebel, lui, était responsable devant le conseil du plan, et par conséquent aussi, bien entendu, devant le conseil d'administration, de deux branches. Une branche qui s'appelait l'animation sociale, une branche qui s'appelait l'information. Alors, c'était évidemment au niveau du conseil d'administration, c'était les deux branches plus difficiles à manager, qui trouvaient plus délicates. Et pour ce qui est de l'animation, ben, c'était Roger Guy qui dirigeait l'animation, puis à un moment donné, il est parti. Et puis, pour ce qui est de l'information, c'était moi qui dirigeais l'information. Maintenant, moi, ça a pris plus de temps avant qu'il me mette à pied, parce que c'était une mise à pied, finalement. Parce que finalement, l'information, c'était quand même moins dérangeant, mettons, que l'animation comme telle, où on sentait bien que les canaux traditionnels de communication entre la population et le gouvernement étaient en train de se remodeler selon des nouveaux schémas qui faisaient peut-être pas l'affaire des notables de l'endroit. Traditionnellement avec leurs affaires bien organisées. Bon. Alors, l'information, moi j'avais fait un plan de travail qui était en gros un journal qu'on envoyait à toutes les familles par la poste. Petit journal de rien du tout, il y avait une page, même pas au commencement, il n'y avait même pas une page imprimée des deux bords. Il y avait une émission de 5 minutes radio quotidienne, puis il y avait également des téléclubs. Alors essentiellement, là, les médias dont il était question dans ce groupe d'information, c'était ça. Alors on a commencé le journal, ça s'est appelé le journal de l'aménagement. On a commencé une émission radio qui s'appelait, les jaseries du Père Lafasse, qui était un 5 minutes quotidien qui passait à l'heure du midi, qui était en joual. C'est-à-dire pas exactement en joual, mais qui était dans le langage du coin, pas avec l'accent, parce que c'est moi qui le faisais, je n'avais pas l'accent gaspésien, mais j'essayais de... Puis, des téléclubs, des émissions de télévision couplées avec des groupes d'écoute que l'animation avait organisé. Alors, c'était ça, au fond, le pattern d'information qu'on avait à Gaspésie. Alors, le journal crée beaucoup de problèmes parce que, naturellement, le contenu de ça, c'était de prendre les résultats de recherche que le bureau d'aménagement faisait, puis d'en faire des articles dans le journal, entre autres. De booster un peu les gens qui travaillaient dans les comités locaux à l'époque, qui ont été transformés par la suite en comité de zone, puis ensuite en comité sectoriel, là, là-bas. Booster les gens qui travaillaient là-dedans. Alors, quand on publiait dans le journal que, par exemple, les deux tiers du territoire devaient revenir au reboisement, par exemple, ben là, le conseil d'administration s'en fallait. Il disait que c'est une information qu'il aurait fallu doser, qu'il aurait fallu petit coup par petit coup, etc. Bon. Ah, ils n'étaient pas d'accord sur la façon dont l'information était faite. Le père Clafasse, bien ça, ça les gênait beaucoup que le bureau d'aménagement, qui se voulait une boîte paragouvernementale quasiment, avec des fonds là-bas, par joual comme ça, ça les gênait beaucoup. Et dans le contexte de l'époque, à un moment donné, après 75 ou 80 émissions, Clafasse a dû fermer ses portes, fermer sa gueule. Et on a remplacé ça par d'autres types d'émissions de radio. Et les téléclubs, ça a bien marché. Ça, il n'y a pas eu de pépin majeur avec ça. Alors, j'ai eu l'occasion d'en parler par la suite avec le Bel à quelques reprises. Ils ont démantelé la section information après un an et demi à peu près. Et je suis parti, moi, à ce moment-là.
J'étais en Gaspésie à cette époque-là, moi.
Ouais.
Et je me souviens, entre autres, de problèmes économiques qui avaient été identifiés assez clairement. Entre autres, à partir du BAIQ. La Gaspésie, dans le rapport que nous autres, on en avait, là, dans les informations qu'on en avait, et je me souviens un peu de ce que vous parlez. Il était question que la Gaspésie serait, d'une part, n'était pas bonne à l'agriculture.
Il y avait des secteurs qui étaient bons.
Il y avait des secteurs qui étaient bons, mais en gros, ces deux principales sources de revenus devaient surtout s'accentuer vers le tourisme et la pêche, si je me souviens bien.
Non, pas vraiment, pas seulement ça. Il y avait une bande de terres arabes qui était très bonne, en bordure du fleuve surtout. Puis il y avait d'autres petites poches de terres arabes un peu partout en Gaspésie, mais le gros, là, c'était à Rivière-du-Loup, là. Il y avait une assez bonne bande de terres arabes, mais plus on en montait vers le golfe, plus la bande diminuait.
Mais ceci m'amène à poser une autre question.
Non, mais tu sais, il y avait donc une partie d'agriculture qui était potable. Il y avait un bout de forêt, dans la péninsule en particulier, dans le Témis, qui était plus que potable, je veux dire. Et il y avait également, en termes de ressources, la pêche aussi. La pêche, mais disait le BAIQ, pas la pêche avec des pêcheurs à petite barque. La pêche en haute mer, former les Gaspésiens pour qu'ils deviennent des marins, parce que les Gaspésiens, c'est pas des marins. Ils s'éloignent jamais au-delà de... Il faut qu'ils voient tout le temps le clocher de l'église. Alors, c'est pas des marins. Alors ça crée des problèmes. Le gars, il veut jamais aller plus loin en mer que l'endroit d'où il ne verrait plus, là, le clocher, ça marche plus. Là. Alors il y avait plein de problèmes. Dans l'agriculture, c'était pareil, il y avait... Les bassins laitiers étaient mal organisés. Le bétail était pas trop bon. Il y avait du suréquipement dans les fermes. Les fermes n'étaient pas bien dessinées non plus par rapport aux terres arables. Alors, il y avait des coins qu'il fallait reconvertir, soit en forêt, soit en d'autres choses.
Ceci m'amène à poser une question qui se rapporte, en fait, qui se rapproche plus de TVEC à ce moment-là.
Oui.
C'est au niveau de l'éducation. On avait identifié des problèmes,
oui,
en Gaspésie. Mais on avait aussi identifié des problèmes économiques, comme on vient de le voir.
Oui. Oui.
Et pourquoi on a conservé, dans le fond, juste le côté éducation? Pourquoi, dans le fond, on a mis l'accent pour arriver à TVEC, le projet que, dans le fond, qui s'est fait à Rimouski, où il y avait des stations de TV qui devaient se placer autour de la Gaspésie, à Carleton,
à Rivière-du-Loup. C'était juste un projet, ça. Quand l'équipe de sociologie là-bas a commencé à faire des études sur la population gaspésienne, bon, ils ont trouvé un certain nombre de constantes, notamment la basse scolarisation, la basse scolarité des gens. Alors, c'était assez tragique. Alors là, on a commencé à fouiller dans les programmes existants pour voir s'il n'y a pas moyen d'améliorer la scolarité des gens qui étaient là. En même temps qu'on regardait à travers les programmes existants, parce qu'il y en avait, ils étaient très peu utilisés. Il y avait parfois pour un ouvrier, par exemple, qui était en chômage et qui devait passer par un diplôme de 9e année, mettons, pour arriver à une carte de compétences dans la plomberie. Alors, il y avait à ce moment-là des cours qui pouvaient être donnés en vertu des programmes de formation de la main-d'œuvre, des cours qui étaient purement scolaires. Alors, il y a des gars qui ont commencé à étudier comment est-ce que ce programme-là pourrait être appliqué, mais il n'y en avait presque pas. Il y avait juste quelques îlots de classes comme ça pour tout le Québec. Mais on a regardé toutes les lois, toutes les affaires. Bon. En même temps, nous, au service d'information, on a commencé à examiner l'utilisation ou la possibilité d'utiliser les médias parce qu'on se disait, ça n'a pas vraiment de bon sens, pas pour prendre un gars qui est en arrière de ma table et puis l'envoyer suivre un goût, puis là, sa femme va être pognée pour faire la traite des vaches, puis tout ça, ça n'a pas vraiment d'allure. Alors, si on pouvait trouver quelque chose, puis donner ces cours-là par la télévision, bon, ben les gens ne seraient pas pris pour une tempête, les femmes ne seraient pas obligées de s'occuper du bétail, on ne serait pas obligées de sortir des maîtresses, les anciennes maîtresses d'école des Boulamites, etc. Bon, on prendrait un meilleur maître pour le mettre à l'écran, puis les gens suivront ça à l'écran. Alors, on avait bâti un projet. On avait examiné un certain nombre de projets qui avaient eu lieu déjà dans le monde, notamment, je me souviens très bien, la Telescola en Italie, qui, à la fin de la guerre, avait commencé des classes de scolarisation pour les enfants par la télévision. Et il s'est trouvé que les adultes avaient beaucoup suivi ça. On avait découvert ça rapidement, puis on avait mis quelque chose à la téléscola qui était spécialement fait pour les adultes, avec un bonhomme extraordinaire qui faisait une émission quotidienne. Bon. Et il a alphabétisé des millions d'Italiens. Des millions d'Italiens. Alors, on a tout ça ensemble, on a bâti un projet. Et on est allé...
Toujours comme prémisse, dans le fond, que l'éducation allait apporter quelque chose des possibilités nouvelles à ces gens-là.
Ben, des possibilités nouvelles, peut-être, mais surtout que ça... L'objectif principal à l'époque, c'était qu'il fallait qu'on trouve le moyen d'améliorer la scolarité de ces gens-là. Étant entendu que si on améliore la scolarité de ces gens-là, on améliore du même coup leur capacité à s'approprier le réel, qu'on améliore leur mobilité, qu'on améliore leur productivité, qu'on améliore si on améliore leurs instruments pour qu'ils comprennent mieux le monde dans lequel ils vivent, etc., bon... ça veut dire qu'à ce moment-là, ils feront toutes sortes de... Ils auront moins de misère à fonctionner, au fond.
La capacité à s'approprier le réel, ça voulait-tu dire aussi, à ce moment-là, une certaine idée d'un Québécois latent?
Non, ça voulait dire de préparer mieux les gens à s'embarquer dans le développement qu'on pensait qu'à l'époque, le BAQ leur proposerait. C'était surtout ça. C'était pas politique. C'était au niveau de l'amélioration de l'instrumentation déjà, puis de leur l'instrumentation intellectuelle. Mais dans ce temps-là, pour nous, ça passait par la scolarisation. D'ailleurs, c'est pas exclu, parce que c'est pas sûr que les gens qui vont à l'école développent pas leur faculté intellectuelle non plus.
À Québec, entre autres, on parle de... à partir du BLQ...
Là. Alors, juste pour faire le joint,
ouais,
là...
c'est ça.
Alors, pour faire le joint, on a donc préparé un dossier. Le dossier qu'on avait... le projet qu'on avait, justement, parlait de s'installer dans une espèce de studio à Rivière-du-Loup, puis là, de couvrir la Gaspésie. En utilisant des stations comme Rivière-du-Loup, qui n'était pas brûlée dans le temps, puis Rimouski, puis Matane, et puis Carleton. Alors, puis on avait fait des émissions scolaires pour les adultes tous les jours dans ce petit studio-là. Alors, c'est un très bon projet. Ce projet-là, on l'a présenté au ministère, puis le ministère, je me souviens, c'est le 23 juin 1965 qu'on a présenté ça, avec la sœur Jean-Baptiste. Et Yves Martin, qui est le directeur de la planification, avec Arthur Tremblay, puis les gens du conseil du plan, moi j'étais là également, ils ont dit que c'est un bon projet, on aimerait ça faire ça, mais on a des problèmes parce qu'on n'a pas, on ne sait pas quoi faire avec ça. On n'a rien au ministère qui pourrait vous soutenir là-dedans. On n'est pas, on a nos filières ne sont pas organisées pour vous donner l'argent pour une affaire de même. Par conséquent, on ne dit pas que ce n'est pas un bon projet, mais on se sent incapable de... Alors, le projet a été, à ce moment-là, mis de côté, et on a fait la scolarisation des adultes par la campagne d'extension scolaire qu'on a commencé. Donc, c'est pas juin 65, c'est plutôt juin 64. Et une campagne d'extension scolaire qui a amené environ 6000 Gaspésiens à l'école, à l'époque. Et ça défonçait tous les programmes en cours. Le ministre de l'Éducation du temps a fait une conférence de presse et a dit au fédéral, vous allez fonctionner là-dedans, c'est un programme que vous avez vous-même sur pied, nous allons nous en servir de façon extensive pour le développement des Gaspésiens, etc. Alors, quand moi je suis arrivé au ministère, par la suite, quand ils m'ont mis dehors, je cherchais un job, puis je suis devenu directeur d'information au ministère. En septembre 1965. Et, j'étais directeur de la formation là. Puis un jour, il y a un conseiller technique du ministre, Fernand Jolicoeur, qui s'occupait de l'éducation des adultes. Puis en 1966, je ne peux pas dire quel. Je pense que c'est au printemps 1966, ils ont créé une direction générale d'éducation des adultes. Alors, Fernand est venu me voir. Il a dit, tu sais le dossier que vous aviez fait à Montjoly pour l'éducation des Gaspésiens? Et il dit, tu devrais t'en venir, il cherchait du monde pour sa direction générale. Il dit, tu devrais t'en venir à la direction générale. Puis il dit, je l'ai lu ce dossier-là, mon pays, tu pourrais faire ça. Mais pas pour la Gaspésie, parce qu'il dit, avec la campagne d'extension scolaire que j'avais faite dans le temps, puis les Gaspésiens sont à l'école, on ne dérangera pas ça. Mais on pourrait prendre une autre région. Alors, il dit, tu devrais t'en venir chez nous, puis il dit, réécrire un projet, là, compte tenu des nouveautés qu'il y a pu y avoir, bon, etc. Puis il dit, on pourrait essayer de faire ça. Parce que dis-moi, il dit, je voudrais que, en éducation des adultes, qu'il y ait l'utilisation un peu massive de la technologie, il me semble que c'est nouveau à ça, en éducation d'aujourd'hui. Lui, Fernand, c'était un vieux syndicaliste, il avait 16 ou 17 ans de formation. Il était responsable du service d'éducation depuis une bonne quinzaine d'années. Et puis, il avait participé à tous les travaux concernant l'éducation des adultes. C'était un vieux pilier de lycée à l'époque. Et il avait participé au comité Ryan, je pense, qui était un des premiers rapports qu'il avait eu en éducation des adultes, tout ça. Bon. Alors, j'ai dit, c'est correct. Alors, je suis allé voir Arthur. J'ai dit, Fernand veut que je m'en aille dans sa nouvelle direction générale. Fait que je me suis en allé là. Fernand a dit, alors là, j'ai commencé à écrire un projet. Puis, on a déterminé que ce serait le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et j'ai écrit le projet en fonction de ça. J'ai ramassé les statistiques qu'il y avait, et c'était là. Je suis rentré chez nous, j'ai m'occupé une couple de mois, j'ai fait un premier texte. Et suite à quoi, vers novembre 1966, Fernand est allé voir les sous-ministres et tout ça. Puis, il y a eu des accords de principe tout de suite. Puis, il y a un arrêté en conseil qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, c'était en mai 1967. Qui déterminait que un projet d'utilisation de la télévision et d'un paquet d'autres moyens pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, le projet était très ambitieux, dans le sens que, par exemple, on voulait, en termes de contenu, on voulait utiliser le matériau, le vécu socioculturel des gens, faire des discussions là-dessus, faire des exposés là-dessus dans divers médias, puis, à l'occasion de ça, trouver les éléments académiques qu'on pouvait greffer là-dessus et qui permettait de faire une meilleure appropriation de ce réel-là. Alors ça, c'était très ambitieux. On n'a jamais pu réaliser ça dans Québec, hein, finalement.
Ouais, c'était idéaliste, dans le fond, quand vous parliez aussi de l'homo.
Ça l'était pas. Non, non, ça l'était pas. C'était pas idéaliste, mais non. C'est parce qu'il aurait fallu beaucoup plus de temps et des équipes pédagogiques beaucoup plus ouverte à ce type de pédagogie j'aurais voulu, moi en tout cas, qu'on essaye d'inventer dans ce temps-là. Mais pour des problèmes concrets, à un moment donné, il te faut, si tu veux comprendre ce problème concret-là, il te faut un peu de mathématiques, mettons. Alors, tu parles du problème concret, puis à un moment donné, tu t'aperçois qu'il te faut un peu de mathématiques, tu donnes les mathématiques qui vont avec, puis tu reviens au problème concret. Là, je trouvais que ça, il n'y avait plus à ce moment-là l'espèce de divorce qu'on a toujours connu entre les notions académiques, d'une part, puis les affaires de type socio-économique ou sociopolitique, etc. J'ai essayé de faire cette jonction-là. J'aurais pu le faire. Mais mon idée, c'était... parce qu'on voulait donner un diplôme de 9e année. Alors...
Mais ça, c'était la publicité.
Non. On voulait donner un diplôme de 9e année. On en a donné, effectivement.
Mais c'était pas le marketing de TVEC, ça?
Non, c'est parce que quand TVEC a commencé en 68, en 66 quand je l'ai écrit, puis en 67, puis en 68 quand on a commencé les émissions, si tu veux prendre un cours de coiffure, il te faut ton diplôme de 9e année. Si tu veux prendre un cours de plomberie, il te fallait ton diplôme de 9e année. En cours de TVEC, ceci est devenu moins vrai. Parce qu'ils se sont aperçus qu'au fond, c'est pas parce qu'un gars avait un diplôme de 9e année qu'il faisait un meilleur coiffeur. Bon. Mais à l'époque, c'était ça la règle. Tu ne pouvais pas entrer dans une classe de formation professionnelle si tu n'avais pas un diplôme scolaire minimum.
C'était un peu ce qu'il avait vendu le projet au ministère aussi.
C'est-à-dire que le ministère, quand on leur a sorti quelques statistiques, puis qu'ils ont vu que là aussi, la scolarisation, la scolarité des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean était très basse, ils sont aperçus que en 1968, c'était un peu catastrophique de voir que les gens avaient si peu d'instruction. Et c'est vrai que c'est catastrophique quand on a peu d'instruction aussi. C'est en général les gens qui ont bien des diplômes qui sont méprisants pour la scolarité. Parce qu'il y a bien des affaires qu'on apprend quand on fait sa scolarité, sa scolarisation. Il y a bien des affaires qui se mettent en ordre.
L'éducation, c'est comme la boisson, il y a des gens qui ne supportent pas ça. Des adages de même qui, dans le fond, faisaient que c'est tout à fait normal qu'on se retrouve avec des populations post-scolarisées à cause.
Non, c'est pas ça du tout les causes. Ça n'a rien à voir avec le duplessisme. C'est que dans la scolarité obligatoire, c'est une loi qui est passée en 1945, ça. Ça veut dire qu'en 66, mettons, donc 21 ans plus tard, ça veut dire que les gens qui, en 45, avaient 10 ou 11 ans, ou 12 ans, partaient pour les chantiers avec leur père, puis leur frère, puis leurs parents. Parce que quand on partait pour les chantiers, on partait en gang. Et les gangs partaient, puis s'engageaient pour des jobbers. Puis les jobbers, ils connaissaient les bonnes gangs, puis ils connaissaient les gangs les plus travaillants. Puis inversement, les bonnes gangs connaissaient les bonnes tales de bois. Et tout le monde, à 11, 12 ans, il fallait que tu quittes l'école parce qu'on avait besoin de bras sur la ferme ou bien on avait besoin de bras en forêt. Et comme l'instruction, c'était une grande valeur, mais que c'était une grande valeur qui flottait dans la société, et que nous autres, paysans ou forestiers, ça nous était absolument interdit de penser qu'on pouvait avoir accès à cette valeur-là. Absolument interdit de penser ça. Je veux dire, c'était pas dans les mœurs du temps. Il y avait deux, trois gars dans le village que le curé prenait puis mettait au collège classique, et puis c'était à peu près tout. Bon. Alors, il n'y avait pas de... c'était une grande valeur. C'est ça que les gens disaient, nous autres, on est nés pour un petit pain, on n'a pas d'instruction, on est nés pour un petit pain. C'est ça qu'ils disaient, en voulant signifier que finalement, cette valeur-là, il n'y avait pas de possibilité pour eux d'y accéder. Donc, à 10-11 ans, quand le gars en savait à peu près autant que la maîtresse d'école de rang qui lui avait fait l'école, il fallait qu'il sorte de là, puis qu'il devienne productif. Il fallait qu'il arrive sur la ferme, mais il fallait qu'il arrive dans la gang qui partait pour le chantier, etc. Ou bien s'il ne partait pas pour le chantier, il fallait qu'il y ait la dame qui restait à la maison, à Château-Richer, ayant vécu à Matapédia pendant une bonne vingtaine d'années. Quand le monsieur partait pour les chantiers, c'était la madame qui faisait la traite des vaches. Elle n'avait pas beaucoup de vaches, tout ça. Bon, d'accord, mais c'est quand même un maudit boulot, si tu penses qu'il y a aussi les enfants à la maison, en plus. Alors, les enfants, parce que les parents étaient larges d'esprit, sont allés à l'école jusqu'à 13-14 ans plutôt que 10-11 ans, mais le midi, il n'y avait pas l'eau courante dans les tables, il fallait qu'il y ait rempli la grande auge pour que les bêtes puissent boire, puis le soir, pareil, puis la traite, tout ça. Il faisait tout ça en plus d'aller à l'école. Alors, si on pense à tout ça, là, jusqu'à 45, c'était ça, la vie. Et les gens qui avaient 10 ans en 1945, en 1966, il y avait 10 plus 21, il y avait 30 ans, quoi. 30 ans. C'était ça, la population du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, ces gens-là, c'est pas du tout, parce qu'ils n'étaient pas très... Ils n'étaient même pas politisés du tout. Il faut se demander s'ils le sont maintenant. Pourquoi pas qu'ils le soient ben plus maintenant. Mais en tout cas, pour l'époque, ils l'étaient certainement pas. C'était pas ça, il ne pensait pas beaucoup à la politique, sauf en période d'élection. Mais en dehors de ça, c'était la vie quotidienne qui les prenait.
Mais Tévec, ça a marché.
Tévec, oui. Ça a été un projet qui a eu, auprès de la population de Saguenay-Lac-Saint-Jean, beaucoup de succès. Je veux dire, tu as vu ça dans mon texte, et je ne crois pas que ce soit une erreur, les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean aimaient autant Tévec que les Montréalais pouvaient aimer l'Expo, qui était à la même époque. Ils étaient aussi amoureux de ce projet-là que les Montréalais pouvaient être amoureux de l'Expo. Et ça, c'était partout, ça. Partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
Est-ce qu'il y avait une concordance entre les deux?
Non. On n'a pas parlé de l'Expo dans nos émissions.
Non, mais je veux dire, est-ce que ça arrivait tous les deux en 77?
Non, c'est plutôt que... non, ce qui fait que les gens étaient amoureux de ce projet-là, c'est que... c'est surtout par la publicité, je pense.
Mais on connaît les politiques de prestige du gouvernement.
On peut considérer comme une politique de prestige pour le gouvernement de faire un projet comme Tévec. Ça avait été arraché ça, au gouvernement, ce genre de projet-là. Et ça avait été arraché aussi au ministère. Un gars comme Arthur disait, la grande innovation du projet Tévec, c'est que quelqu'un qui n'a pas sa 8e année va pouvoir, même s'il y a 0 année, s'engager dans un processus qui va lui donner d'un premier coup une 9e année. Alors, parce qu'à l'époque, pour lui, la grande innovation, c'était qu'en 18 ou 20 mois, les gens puissent passer de 0 à 9e année. Alors, alors, ça avait été arraché au gouvernement. C'était pas du tout considéré comme une affaire de prestige ou quoi que ce soit. Mais on avait dit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, aux gens, dans la publicité et puis dans toutes les rencontres qu'on avait, on leur avait dit, écoutez, vous savez, on fait une expérience pilote, c'est... Et puis, on l'a fait ici parce qu'on sait que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont fiers, puis ils sont capables de supporter ce genre d'expérience pilote-là. Alors ça avait assez marché, ça, dans la tête des gens, dans la tête des notables, puis dans la tête des gens du coin. Mais le gros de l'affaire, le gros de l'engouement, si je peux dire, c'est pas le bon mot, mais en tout cas, c'était que les gens avaient été touchés par la publicité qui avait été faite. D'abord, jamais il y avait eu une campagne de publicité de ce type-là, et aussi large et importante que ça au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Moi, j'avais pris 200 000 $, je pense. Puis j'avais engagé des publicitaires habitués à faire du marketing, tant que tu veux. Et ces gens-là ont travaillé, puis la publicité, c'était une publicité... on épuisait les médias.
Mais ça a été quoi l'ensemble du budget de TV, dans le fond? On a bien essayé de savoir.
Le budget formel de ça, c'était. C'était pas beaucoup. C'était 1 million quelques par an, je pense, pendant 2 ans.
Là-dessus, 200 000 de publicité.
Il y avait à peu près, je pense que TVEC a dû coûter autour de 3 millions à peu près, pour l'ensemble là, de tous les chevauchements budgétaires d'année en année. Ça a dû coûter à peu près 3 millions, mais ça inclut pas là, les services qu'on obtenait de d'autres unités administratives, par exemple du ministère. Par exemple, je peux pas te dire, dans le 3 millions, il n'y a pas, il y a des bouts, mais il n'y a pas l'ensemble, par exemple, de l'informatique.
Bon, mais justement, cette question-là...
Il y a des frais comme ça qui n'ont pas été, étudiés. On ne sait pas comment ça. Si on essaie de voir les services indirects que le ministère fournissait au projet, comme l'informatique, c'est un exemple, là, je ne sais pas combien ça montrait.
Mais cette question d'informatique et de centre de production à Québec, entre autres, est-ce que c'était pas des questions... Moi, en tout cas, c'est des questions que je considère comme... C'est une solution que je considère comme bâtarde.
Les gens de Saguenay considéraient ça aussi de la même manière. Les gens de Saguenay étaient très mécontents. Quand on a vu que moi, j'organisais les studios de production à Québec. Mais j'avais deux raisons principales pour ça. Et ces raisons-là faisaient que j'ai passé outre aux critiques qu'on faisait là-dessus. La première, c'est que j'arrivais du BAEQ. Et au BAEQ, on était à Mont-Joli. Puis je voyais à Mont-Joli des gens prendre des semaines pour entrer en contact, mettons, avec un professionnel du ministère des Ressources naturelles, mettons. Le géographe là, qui travaille sur une carte quelque part, là, puis qui a cette carte-là cachée dans une filière. Puis je voyais des semaines passer avant que le BAQ puisse disposer d'une photocopie de la carte qui était en préparation. Mais loin des centres de décision, et loin des services professionnels qu'il y a au gouvernement, a perdu énormément de temps. Et on était, nous, au bout de la ligne, surtout en hiver, absolument coupés des centres de décision. Par conséquent, moi, je me suis dit, je fais un projet et j'ai pas de temps devant moi, parce que le projet était limité dans le temps. Pas pour m'installer à Chicoutimi, puis que là, que moi, je prépare une demande pour le Conseil du Trésor. Puis parce que je suis loin, les gars l'oublient sur les papiers, dans leur pile de papiers. Il faut que je sois proche. Et si j'ai une demande à faire pour le Trésor, il faut que je puisse partir avec en dessous du bras, et puis faire le tour des bureaux, les gars que je connais, puis obtenir toutes les signatures dans la même journée, puis que le ministre la signe, puis que ça s'en aille au Trésor dans la même journée. Autrement, je n'y arriverai pas. Puis là, on parle pour le Trésor, mais on pourrait parler pour un ensemble d'autres décisions. Parce que le TVEC était fait à l'intérieur du gouvernement.
Il n'y avait pas de question de contrôle sous-jacente à ça.
Non, c'est la procédure.
La population négocie le contrôle de TVEC régionalement.
Oh, c'est pas la population, ça. C'est
les couches intermédiaires, je pense.
Non, pas plus. Non, c'est nous autres qui d'office leur imposaient ça. Puis ils n'étaient pas contents quand on leur imposait ça. J'ai fait sortir des arrêtés en conseil pour les forcer à s'asseoir à la table. Puis faire un conseil d'administration dans le dernier bout de TV qui gérerait ce projet-là. Non, c'est pas eux autres. Mais, alors donc, un premier groupe de raisons, il fallait être proche des centres de décision. Parce que moi, je savais que tout à l'heure, j'aurais un réalisateur qui rentrait en studio et dirait, je vais un sapin cet matin. Puis il fallait que je trouve les procédures gouvernementales accélérées pour...
C'est plus facile de trouver un sapin au Saguenay que de le trouver à Québec.
Non, mais quoi, ça, une chaise. C'est l'argent qu'il faut pour trouver. C'est la logistique. Alors, ça, c'est mon premier groupe de raisons. Le deuxième groupe de raisons, c'était mon recrutement. Quand j'ai commencé à recruter des gens pour faire la production de ces émissions-là, et puis que je leur disais, je m'en vais au Saguenay-Lac-Saint-Jean pour 2 ans, tout le monde me disait non. Je n'arrivais pas à recruter un seul réalisateur, une seule script assistante, et puis j'ai fait le tour au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis il n'y avait pas sur le terrain le personnel de production. Parce que moi, je m'embarquais pour un long métrage par jour. Et les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ils n'en font pas de production. Tout ce qu'ils font, ils baissent Saint-Piton, puis ça s'en va, ça arrive de Montréal.